Vous vous rappelez que nous nous sommes engagés depuis un certain nombre de mois dans une étude d'histoire des dogmes ou des doctrines. C'est sur l'autorité en matière de foi, telle qu'elle est reconnue dans l'Église, que nous avons concentré notre attention en voyant ensemble quelle a été la conception des chrétiens des premiers siècles, du deuxième au 5 ou 6e siècle d'abord, pendant le Moyen-Âge, à la Réforme, et nous n'avons pas achevé encore l'étude de la question au 16e siècle. Aujourd'hui, je voudrais que nous achevions le coup d'œil, de donner un coup d'œil au 16e siècle, et que nous survolions toute la période qui conduit jusqu'à nous. Alors, c'est peut-être un peu trop ambitieux, je ne sais pas, mais je n'ai pas préparé quelque chose de tellement détaillé, de très très, très fouillé non plus. Tout va dépendre de votre choix. Souhaitez-vous que nous consacrions une autre séance encore? Je suppose qu'au mois d'avril, il n'y aura pas un institut biblique général, donc nous aurons encore un institut biblique séparé pour notre groupe. Voulez-vous que nous consacrions encore une séance à ce sujet? Histoire des dogmes, autorité en matière de foi.
Il me semble que le sujet est tellement vaste.
Tous les sujets sont très très vastes. Oui,
la période contemporaine aussi.
Oui, oui, bien sûr. Mais
c'est immense.
Quant aux principes fondamentaux, ça n'apporte peut-être pas tellement de nouveautés. Enfin, c'est ce que dans mes notes j'ai prévu de dire à propos des dernières décennies. Nous en revenons à notre sujet sur l'autorité en matière de foi. Je vous rappelle que j'ai cru discerner trois notes très caractéristiques dans la solution nouvelle au problème que la Réforme a préconisé. Et en gros, on peut dire que la Réforme a été d'abord la découverte ou la redécouverte de cette solution. D'une part, la Réforme a affirmé la souveraineté exclusive de l'Écriture. Tout doit être déterminé par l'Écriture. C'est le fameux slogan « Sola Scriptura », par l'Écriture seule. En second lieu, et cela a pratiquement une importance égale au principe du sola scriptura, c'est ce qui permet à ce principe de porter vraiment des fruits, d'avoir des effets qui ne soient pas déviés, c'est la mise sur pied d'une méthode d'étude biblique, un type d'interprétation qui permette à la Bible elle-même d'enseigner son sens. On peut dire sola scriptura tant qu'on veut, si on a une méthode allégorique, par exemple, d'interprétation, où c'est la fantaisie de l'interprète qui dit quel est le sens de la Bible, ce n'est pas réellement le texte biblique qui déterminera la foi de chacun, mais son imagination selon qu'elle la conduit. Il faut une méthode d'étude biblique rigoureuse pour que le sola scriptura soit efficace. Or, c'est ce que les réformateurs ont pu introduire à la faveur aussi, je crois qu'on doit le reconnaître, de la conjoncture historique. C'est grâce aux techniques de l'étude humaniste des textes anciens, grâce à l'utilisation d'une méthode historico-grammaticale, que les réformateurs, qui étaient bien formés aux disciplines de la philologie nouvelle, ont pu laisser la Bible enseigner elle-même son sens, selon son contexte premier. Il y a là un très grand contraste avec l'exégèse et des pères de l'Église et des docteurs du Moyen-Âge. Même ceux qui ont été les plus prudents, les plus circonspects, comme Thomas d'Aquin, ont quand même donné dans l'allégorisme à nos yeux échevelés, pour son introduction dans le rôle de maître en théologie à l'Université de Paris, si je me rappelle bien. Thomas d'Aquin a fait un commentaire sur un psaume, mais c'est de l'allégorie du début à la fin, et n'importe quel petit mot du psaume se voit revêtu d'un sens théologique spirituel assez extraordinaire. On sent bien que ce qu'on appréciait alors, ce que les auditoires appréciaient alors, c'est justement l'ingéniosité du docteur qui trouvait des sens assez subtils derrière des choses en apparence tout à fait anodines, ou de simples images physiques, c'est tout, dans le psaume.
On trouve ça aussi chez les Américains.
Oui, ou chez d'autres aussi. Et oui, alors, je crois que c'est très important, à la réforme, c'est pas une méthode historico-grammaticale. Il y a un seul sens de l'écriture, ont souligné les réformateurs. Et c'est le sens naturel qu'il faut retrouver, sans quoi l'écriture n'est plus qu'un roseau agité par le vent, ou un nez de cire que l'on façonne à sa guise. Il faut cette méthode.
Est-ce que la langue hébraïque ne prête pas un peu à cela?
Oui, je pense qu'on peut dire que la langue hébraïque laisse souvent, surtout dans les textes poétiques, l'interprète décider lui-même des relations entre les mots. Elle est assez pauvre en termes abstraits, c'est un trait, mais surtout, elle a des structures syntaxiques très rudimentaires. Et on se contente souvent de la juxtaposition, sans préposition, sans mot de liaison précis, et à vous de comprendre. Ça ressemble un peu à ce qu'on appelle, je crois qu'aujourd'hui, à crainte du racisme, on parle plus guère, mais ce qu'on appelait autrefois le petit nègre. C'est-à-dire des mots bout à bout, sans qu'on se préoccupe des formes qui lient les noms pour bien montrer les relations entre les concepts. Il s'agit que la personne comprenne. Alors ça, c'est assez caractéristique de l'hébreu. Et il y a des versets dans les proverbes en particulier, parce que la poésie gnomique, comme on l'appelle, la poésie des proverbes, c'est une poésie d'une extrême densité. Il y a des proverbes, il y a 3-4 mots. Comprenne qui pourra. Vous pouvez comparer les versions, vous vous rendre compte que parfois les équivalences en français sont très très éloignées les unes des autres. C'est pas la faute des traducteurs. C'est vrai qu'avec ces 2-3 mots, on peut se demander ce que le proverbe veut vraiment dire. C'est vrai que l'hébreu, au contraire du grec, qui lui multiplie au contraire les petits mots connecteurs, bien plus encore que le français, il est vrai que l'hébreu, lui, est rudimentaire et favorise, laisse davantage de marge pour l'arbitraire individuel, l'ingéniosité, pour employer un terme plus favorable. Je pense que ces traits ne sont pas totalement étrangers au choix qu'a fait le Seigneur lui-même en décidant que les documents de la Nouvelle Alliance seraient écrits en grec. C'est aussi un fait de l'histoire de la Révélation, celui-là. Tous ceux qui ont voulu prêcher la mentalité hébraïque plutôt que la vérité biblique, la mentalité hébraïque comme telle, je crois, ignore ce fait que c'est Dieu, notre Dieu, ou alors nous ne sommes plus chrétiens, qui a voulu que la partie la plus achevée de sa révélation soit livrée en grec. Un grec qui n'est pas aussi compliqué, tarabiscoté dans ses relations justement subtiles, nuancées que le grec classique, mais qui est quand même une langue beaucoup plus précise que l'hébreu. C'est vrai. Alors, en ce qui concerne l'interprétation que les réformateurs ont appliquée, il faut aussi dire qu'elle n'a pas été seulement grammaticale et historique, comme elle devait l'être, pour que l'arbitraire de l'homme soit suffisamment dompté et que ce soit la parole qui règne, mais qu'elle est aussi une interprétation selon l'analogie de la foi, comme ils ont dit, où le principe de l'unité de l'écriture sert de guide, permet d'éclairer les passages les plus obscurs par les plus clairs, permet d'enseigner une doctrine unifiée. Alors ça, c'est le deuxième trait qui a été, me semble, très important pour le fonctionnement de l'autorité en matière de foi. Et le troisième que j'ai souligné, c'est l'importance des confessions de foi, genre littéraire, si on veut parler de genre littéraire, caractéristique de la Réforme. Beaucoup plus développé que les vieux symboles des conciles patristiques, les confessions de foi ont joué le rôle de l'autorité prochaine, l'autorité la plus proche, bien que révisable en principe, dans les églises issues de la Réforme. Alors, comme nous avons souligné ces traits tout à fait caractéristiques de la grande Réforme de Luther et Calvin, nous n'avons pas encore tout dit sur le XVIe siècle, de loin. Je crois qu'il nous faut voir encore comment les réformateurs ont combattu sur trois fronts. Il aura fallu, premièrement, polémiquer avec les catholiques restant fidèles au pape. Bien sûr, la première grande controverse du XVIe siècle, c'était la controverse entre les réformateurs, dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, et les théologiens romains. Et il est intéressant pour nous de savoir quelque chose des débats qui ont eu lieu, et aussi des positions catholiques exprimées à ce moment-là. Je crois qu'il faut d'abord reconnaître que les positions prises par les catholiques, ceux qui ne s'engageaient pas du côté de la Réforme, ont été fort diverses. C'était une période de tels bouleversements, avec des remous si puissants, que parmi les catholiques, il y avait eu des gens vraiment très très ouverts, très très proches des réformateurs sur bien des points. Et vous en avez eu d'autres, alors, extrêmement brutaux dans l'opposition. Il y a eu des efforts de conversation. Il n'y a pas eu seulement les grandes disputes publiques qui étaient de purs affrontements, où il s'agissait pour les théologiens des deux bords de l'emporter sur leurs adversaires devant un public de simples citoyens, mais aussi souvent un public de nobles, d'autorités, qui décidaient, après avoir entendu les deux parties et les arguments qu'ils s'opposaient, de passer ou non à la Réforme. C'est passé comme ça dans pas mal de villes. Une dispute à Lausanne de ce genre, par exemple, et la décision a été prise de s'engager du côté de la Réforme par les autorités de la ville. Et les gens de toute la ville, tous les coins, c'était quand même une certaine forme de démocratie déjà, avaient assisté à la dispute.
C'est plus fréquent dans les pays, notamment en France.
Oui, en France, parce que la France était pratiquement le seul pays déjà fortement centralisé. Je pense qu'il est quand même un petit peu différent. C'était déjà un peu plus tardivement. Le colloque de Poissy rentre plutôt à la limite, entre les deux catégories dont je parle, celle donc de ces disputes selon lesquelles les autorités décidaient pour ou contre, et puis les conférences qui comportaient des tentatives de rapprochement. À Poissy, je crois que les chances étaient très faibles de rapprochement, mais c'était quand même un objectif théorique. Le colloque de rapprochement le plus important, je crois, a été le colloque de Ratisbonne en 1541. Melanchthon, qui était de tempérament particulièrement irénique, qui cherchait à respecter la tradition, et la tradition des pères de l'Église en particulier, tant que c'était possible, avait voulu une telle rencontre, et il y a eu des jours et des jours de travail où les théologiens catholiques et les théologiens protestants ont vraiment conversé. Et Calvin a participé. Comme ça se passait en latin, malgré son ignorance de l'allemand, il a pu y être, et il a été d'ailleurs fortement apprécié. Il était relativement jeune, en 41, il avait 32 ans. On l'a surnommé dans ce groupe de théologiens le théologien. Ça a été un colloque où, dont les textes étaient assez mesurés. Et les participants catholiques ont été vivement attaqués par certains de leurs confrères catholiques pour leur modération. Donc ceci pour bien souligner qu'il y a eu diversité à l'époque de la réforme même. Alors les polémistes catholiques ont attaqué les points névralgiques suivants dans la thèse protestante. Ils ont attaqué sur le canon et on doit reconnaître, me semble-t-il, que dans le schéma protestant, c'est un des points les plus vulnérables que la question des limites exactes du canon. Évidemment, les catholiques avaient beau jeu du fait des errements personnels de Luther en la matière. Mélenchon, lui, était toujours resté très prudent, avait défendu le canon traditionnel, que nous recevons nous aussi, et Calvin de même, mais vous vous rappelez ce qu'avait dit Luther sur l'épître de Jacques, etc. Luther, à cause du ferment de subjectivisme dans sa version de la foi, dans son expérience personnelle, avait cru qu'il pouvait critiquer le canon traditionnel. Alors les catholiques ont attaqué très fort sur ce point. Et ils croyaient pouvoir enfermer les protestants dans le dilemme suivant. Ou bien vous rejetez le canon traditionnel, mais alors vous n'avez plus aucune norme. Ou bien vous l'acceptez, mais vous l'acceptez de l'Église. C'est l'Église qui a fixé les limites du canon. Ce n'est pas la Bible elle-même qui vous donne la liste. Comment déterminer quels sont les livres qui constituent la norme? Vous devez vous référer finalement à ce que l'Église a décidé au 3e, 4e siècle. C'était, du point de vue de la polémique, quelque chose d'assez efficace. Il y a la question du canon. Il y avait un combat aussi à propos de la question du canon qui portait sur les livres que les protestants ont appelés très tôt apocryphes et que beaucoup de catholiques, à l'époque, traitaient comme portions d'écriture, comme canoniques aussi. Mais je pense que le point quand même le plus vif concernait le principe même du canon. Le deuxième point névralgique, eh bien, c'est celui de l'interprétation, du caractère individuel. Du choix quant au sens des textes. Les catholiques ont l'impression que le protestantisme livre chacun à son propre jugement dans une véritable anarchie spirituelle. D'où prolifération des sectes. Les divisions internes de la réforme au XVIe siècle ressemblaient déjà à la preuve que lorsqu'on cessait de faire de l'Église la garante, la maîtresse en matière de vérité et de foi, eh bien, c'était l'éclatement. Chacun ne faisait plus que ce qui lui semblait bon. Chacun ne croyait plus selon ce qui lui semblait bon, faisant dire à l'Écriture ce qu'il voulait.
C'est le problème du magistère.
Oui, c'est le problème du magistère, problème de l'éclatement sectaire du protestantisme. La notion de secte a été rapprochée de la notion même de protestantisme courant, traditionnellement chez les catholiques, depuis le XVIe siècle.
Il faut reconnaître que c'est un argument de poids de leur côté.
Eh oui, là aussi, c'est pas pour rien, ce sont des hommes intelligents qu'ils ont appuyé sur ces points-là, parce que c'est vrai que l'opposition de Luther et de Calvin, et puis après ça l'opposition des luthériens réformés d'une part et des anabaptistes de tout poil, eux-mêmes très divers entre eux, très opposés entre eux, des spiritualistes qui n'étaient pas anabaptistes comme Schwenkfeld par exemple, que tout ça, ça a paru le symptôme d'une maladie spirituelle désintégrant l'unité chrétienne.
Une question d'hier à aujourd'hui, donc ces controverses à la situation d'aujourd'hui, et concernant le magistère de l'Église, a-t-elle ou non varié dans son interprétation de l'Écriture sainte? On entend dire communément autour de nous, mais je m'adresse aux théologiens bien informés du sujet. Y a-t-il véritablement, d'une manière générale, une modification suffisamment sensible, quelque chose qui pourrait ressembler en termes protestants à un glissement des sectes dans ce qu'on appelle protestantisme à l'intérieur de la théologie catholique, ou bien l'Église qui a fait bien les règles du gouvernement et l'interprétation de l'Écriture jusqu'à ce jour?
Je crois qu'il faut distinguer là entre les textes qui sont pourvus du cachet d'infaillibilité, d'après la doctrine catholique elle-même, et puis le magistère ordinaire, l'enseignement couramment dispensé, même par les papes, l'interprétation biblique courante. Je crois qu'il est difficile de faire la preuve, si on prend les seuls textes dits infaillibles, irréformables, d'un changement bien net, qu'on puisse désigner comme tel, d'un reniement. Il y a des adjonctions, des additions, nous allons en parler. Mais en ce qui concerne le rejet de quelque chose qui avait été expressément déclaré, j'ai l'impression qu'on n'arriverait pas à en faire la preuve. Si on s'en tenait en tout cas au texte considéré comme infaillible.
Et ce sont ces textes qui sont, qui constituent l'épine dorsale de la théologie catholique. De ce que
oui, je pense que si on considère en particulier le Concile de Trente, qui s'est prononcé sur un nombre important de sujets doctrinaux, on peut parler d'épine dorsale en effet. Autrement, n'est-ce pas, les textes de ce type sont rares. Ce sont les déclarations en matière de foi et de mœurs des conciles et les déclarations ex cathedra du pape, mais volontiers on affirme que depuis 70, le pape ne s'est exprimé qu'une seule fois ex cathedra. Ce qui veut dire que ça ne fait pas beaucoup en volume. C'est sur l'Assomption en 1950. Alors, si on s'en tient donc à ces textes considérés comme infaillibles, je pense qu'on a de la peine à faire la preuve d'une modification formelle. Mais si on prend alors le magistère ordinaire, le gros du discours qui se tient dans l'Église romaine avec la sanction de l'autorité, alors là, je crois qu'on doit dire que le changement a été très spectaculaire, en particulier ces dernières décennies. Là, une multitude de textes bibliques ont été interprétés d'une manière nouvelle, différente de ce qui était, disons, établi au XIXe siècle. Là, il y a une différence marquée.
Et qui peut être considéré, et qui pourrait être considéré, puisque tu parles du magistère ordinaire, je ne sais pas quel crédit un catholique authentique doit lui accorder, puisque tu parles de cela, disons, est-ce que c'est hérétique, ça peut être considéré comme hérétique?
Non, pas formellement hérétique. Lorsqu'une vérité n'est pas de foi définie, le fait de s'y opposer n'est pas formellement hérétique. Ce peut être déjà assez grave. Il peut y avoir des sanctions disciplinaires, par exemple, contre des clercs qui transgresseraient l'enseignement que le magistère recommande, mais si ce n'est pas de foi définie, ce ne serait pas formellement une hérésie.
Et combien le jeté et condamné en famille
Oui, mais je...
Parce que... Pourquoi, à propos du
magistère? Oui, je ne sais pas exactement quel est... dans son cas, il semble s'opposer à un texte conciliaire, à la déclaration d'infaillibilité de Vatican I, et dans son cas, donc, il semble qu'il y ait transgression de ce qui est de foi défini. C'est bon, là bon, je sors un peu donc du sujet du XVIe siècle, mais c'est ce qui différencie Hans Küng de beaucoup d'autres théologiens qui ne me paraissent pas plus extrêmes que lui du tout dans le catholicisme contemporain. En montagnard suisse qu'il est, Küng en a assez des subtilités, des nuances, etc. Et il a écrit un livre intitulé Franc-parler. c'est une traduction possible, au moins, de ce titre. Disons, voilà, ne rusons pas, l'Église, en fait, s'est trompée. Ne parlons plus d'infaillibilité, il y a des papes qui ont dit des choses absolument inadmissibles et qui enseignaient réellement ex cathedra, alors renonçons à parler d'infaillibilité. Nous préservons la notion que dans ce sens, que l'Église ne deviendra pas totalement apostate jamais, qu'elle demeure dans la vérité grosso modo. Mais avouons clairement que le mot d'infaillibilité est trompeur, comme on le comprend aujourd'hui, pratiquement de manière universelle. Avouons que le magistère, même dans les déclarations les plus lourdes d'autorité, s'est trompé, qu'il n'a pas été infaillible. Mais alors, ça fait lever les bras au ciel, même à des gens aussi proches de lui que Karl Rahner, le jésuite Karl Rahner. Karl Rahner s'est tout de suite opposé à Küng. Alors Küng a dit, mais c'est à Rahner qui m'a appris tout ce que je sais, c'est Rahner qui m'a appris la relativité historique de toutes les déclarations conciliaires de tous ces textes. Oui, seulement Rahner, habile jésuite, sauve chaque fois les apparences d'un accord formel avec ce qui a été dit. En fait, il en renie le contenu, je crois, autant que Küng. Mais, ouvertement, il ne l'avouera jamais.
Donc, si je veux dire, pour en finir, la conclusion suivante, si le pape n'est intervenu qu'une fois depuis,
oui, oui.
C'est donc
avec le privilège d'infaillibilité, oui.
C'est donc qu'il n'y avait pas péril en la demeure. Mm-hmm. Tout est bien conservé et transmis jusqu'à aujourd'hui, et on peut dire, sans passer pour un montagnard, que l'Église catholique n'a pas varié jusqu'à ce jour.
Ah, dans son angle le plus officiel, je crois qu'il faut le dire, oui. Mais oui.
Que ce sont des petits remuements de fous, disons, qui concernent la périphérie, mais que
dans tout le temps ce qu'on considère, comme j'ai dit, ouais, j'ai pris la précaution au début de la réponse que je te donnais, de bien dire tout le temps ce que tu considères. On peut aussi adopter le jugement inverse de celui que tu viens de formuler, en disant, en fait, cet aspect juridique formel relatif à quelques textes, c'est un aspect tout à fait marginal, périphérique. Il s'agit d'une sorte de mythe de l'institution qui prétend n'avoir pas varié, et qui n'avouera jamais avoir varié, mais ce qui est la vie concrète des catholiques, ce qui façonne réellement leur mentalité et leur pratique subséquente, c'est l'enseignement du magistère ordinaire, c'est la manière dont tous les théologiens, curés, etc., interprètent le texte biblique, et ça a profondément changé.
Mais est-ce que c'est ça le fond du problème? Est-ce que le problème, c'est pas concernant l'Église catholique, à la réforme comme aujourd'hui, le problème du centralisme et de...
Pas forcément, on peut dire aussi que c'est pas le problème fondamental, tu vois. C'est pour ça que je dis, je crois qu'il faut pas développer beaucoup plus maintenant sur ce point, parce que nous devons y arriver plus tard dans l'économie de ce que j'ai prévu. Mais, donc, je parle pour l'instant du XVIe siècle, ce qui, bien sûr, a la pertinence pour notre actualité. Les catholiques, donc, ont adopté des positions fort diverses. Les points névralgiques qu'ils ont attaqués, ont été les questions du canon, de l'émiettement, de l'éclatement du protestantisme à partir du droit reconnu à chacun d'interpréter l'écriture comme il lui semblait. De manière générale, ils ont attaqué ce qui leur semble un isolement de l'écriture, qui est comme prise hors de l'Église, alors qu'ils prêchent, eux, une sorte de symbiose entre l'écriture et l'Église. Alors, en 1545, vous le savez, c'est un événement majeur, s'est réuni le concile de la remise en ordre du catholicisme. Donc pendant 25 ans, en gros, les catholiques ont réagi de manière très dispersée, bien sûr, les papes, mais qui n'avaient pas un pouvoir aussi fortement organisé qu'au temps moderne, qu'à notre époque. Les moyens de communication étaient bien moins développés, etc. Les papes ont réagi, mais aussi les théologiens, et il y a eu diversité donc de réactions, toute la gamme pratiquement. Certains polémistes ont été très habiles, d'autres très maladroits. En 1545, le pape a réuni un concile de remise en ordre qui a fini par s'établir dans la ville de Trente et qui a siégé jusqu'en 1563. C'était vraiment un très long concile qui a fait un travail techniquement substantiel, rigoureux, et je crois que nous devons reconnaître qu'il a choisi une voie moyenne parmi les thèses catholiques. Dans cette diversité des positions, il n'a pas choisi les thèses les plus antiprotestantes, les plus fortement opposées aux thèses de la Réforme. Il a condamné fermement les réformateurs sur un certain nombre de points, mais en gros, les positions qu'il a adoptées ont été des positions correspondant en gros à la via media dans le catholicisme du temps. En ce qui concerne la question de l'autorité en matière de foi, c'est sans doute la théorie des deux sources qui en a été l'élément le plus voyant. Ce qu'on a appelé traditionnellement ensuite la théorie des deux sources. Notre foi doit être réglée, une foi comprise essentiellement comme croyance par opposition à l'accent luthérien sur la confiance. Notre foi croyance doit être réglée par ce que Dieu a communiqué comme révélation. Et ce que Dieu a communiqué nous vient de deux façons. Il y a deux sources de cette révélation pour nous dans l'histoire. Il y a l'écriture, mais il y a aussi la tradition. Qui est un ensemble beaucoup moins clairement délimité. Donc finalement, le magistère de l'Église seul pourra dire exactement le sens et la composition, mais qui semble avoir pour noyau un certain nombre de choses venues des apôtres, mais restées orales. C'est la première idée. Les apôtres ont écrit, et nous avons le Nouveau Testament, donc, comme fruit écrit de leur activité, mais ils ont aussi beaucoup enseigné oralement, et le souvenir s'en est transmis. Ce qui a créé une tradition accompagnant l'écriture. Alors cette tradition orale a fini par se mettre par écrit, à l'occasion des controverses, à l'occasion de la prédication, des commentaires de la Bible, etc. Alors on la retrouve chez les pères de l'Église. Les choses qui ont été professées par pratiquement tous les pères de l'Église, et qui ne se trouvent pourtant pas dans la Bible, on peut considérer qu'elles viennent de cette tradition orale. C'est un dépôt apostolique. Voilà, en gros, la manière dont la notion de tradition a été fondée, avec un élément aussi d'interprétation, l'élément qui correspond à l'idée que l'Église, ayant pour mission de garder le dépôt, la vérité lui est confiée, et c'est l'Église alors des ministres, l'Église des hommes pourvus du charisme correspondant. Charisme conféré sacramentellement, d'ailleurs. L'Église ayant pour mission donc de garder le dépôt, en en dit le sens simultanément. Garder le dépôt, c'est pas seulement avoir la clé de la bibliothèque où le codex sera enfermé, hein. C'est aussi dispenser le sens à chaque génération de ce dépôt, dire ce que veulent dire exactement les textes du Nouveau Testament ou les choses transmises oralement, d'abord oralement. Alors il y a un aspect d'interprétation qui s'ajoute à l'aspect d'information.
Donc sur le plan technique, le plan de l'autorité, il n'y a pas de distinction à faire entre l'héritage oral des apôtres, concilié par les pères, et l'interprétation au fur et à mesure, durant des siècles, qui est donnée de cet héritage transmis par les pères. C'est-à-dire que toutes les clauses jusqu'aux toutes dernières sont la tradition.
Oui, exactement, mais avec cette note qu'il faut ajouter tout de suite, que les limites exactes de ce qui est la tradition, tradition mise sur un pied d'égalité dans la formule des deux sources, d'un pied d'égalité avec l'écriture sainte, que c'est les limites exactes de cette tradition, en gros et en détail, c'est le magistère seul qui en décide. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'on trouve un père de l'Église, ou même 10 pères de l'Église, qui ont dit quelque chose, pour que cela devienne une vérité de tradition. C'est finalement la hiérarchie catholique qui est en charge du dépôt, et donc avec à sa tête le pape, qui seul peut dire ce qui est authentiquement traditionnel, qui a pu paraître minoritaire même à une période de l'histoire. En fait, c'est le sens de l'Église enseignante, qui a le dépôt en charge.
Mais chaque fois que c'est dit, que cette parole est prononcée, elle est définitive. Elle ancre dans cette vérité qui est...
S'il s'agit du niveau suprême, à savoir des déclarations conciliaires ou des déclarations ex cathedra en matière de foi et de mœurs du pape lui-même. J'ajoute cela maintenant, puisque je sens que ce qui t'intéresse, c'est la doctrine catholique actuelle. Ça, bien sûr, ce n'était pas encore dit au XVIe siècle. L'infaillibilité du pape était une opinion qu'avaient certains théologiens, mais non pas tous, de très loin. Et rien n'avait été défini à ce propos.
On pouvait... excuse-moi, on était au XVIe siècle.
Oui, oui.
Savoir si on peut traiter de la même façon ce que l'Église catholique enseigne jusqu'au dogme de l'infaillibilité papale et ce qu'elle enseigne depuis.
Lorsque le pape a été déclaré infaillible, donc au Concile Vatican I, c'est toutes les déclarations ex cathedra des papes venus auparavant qui ont été du même coup déclarés infaillibles et irréformables.
Donc sur ce point-là, on sait ce qu'est la tradition.
Il y a des choses définies. Oui, parce que finalement, avec le cours du temps, ce qui était oral au début a toujours fini par s'écrire.
Il y a un document qui dit c'est ça.
Non, pas un seul, mais une multitude. Ce sont les conciles et les déclarations ex cathedra des papes. Seulement, alors là, il y a le problème de la liste de ces déclarations elles-mêmes, qui n'est pas faite. Mais disons, en principe, ce sont les conciles et ces déclarations ex cathedra des papes qui sont considérées comme strictement infaillibles et irréformables.
Les étudiants en théologie n'ont pas un bouquin, un codex qui dit tout ça, c'est la...
Non, il y a un codex qui a été constitué d'abord par Tenzinger et puis d'autres. J'ai d'ailleurs une des éditions et ça a été traduit en français, parce que moi je l'ai dans l'édition de Tenzinger qui est en latin, mais ça a été traduit en français par Dumège sous le titre « La foi catholique ». Il y a des recueils, mais ces recueils ne contiennent pas seulement les choses qui sont considérées comme infaillibles, mais aussi beaucoup d'encycliques, beaucoup de documents du magistère ordinaire, qui, elles, en théorie, pourraient n'être pas infaillibles, mais qui font quand même autorité, qui, comme les décrets d'un gouvernement, sont à obéir par les catholiques. Mais il leur est possible d'envisager qu'il y ait eu erreur.
Il faut que demande le pape pour que ça soit considéré comme infaillible, il faut qu'il le dise. Ce soit extra-cathedra.
Eh bien, il ne faut pas qu'il le dise, Non, en fait, il n'y a aucune formule. Ça fait partie des ambiguïtés. Bon, on anticipe en fait sur 1870, si vous voulez, mais la formule de Vatican I, c'est que le pape est infaillible, comme docteur de l'Église universelle, lorsqu'il prononce ex cathedra sur la foi et les mœurs.
C'est-à-dire
dans sa chair. Bon. Alors, théoriquement, ça veut dire de sa chair, oui. De sa chair de docteur universel. Alors, une interprétation qui paraîtrait assez naturelle, c'est possible, c'est que chaque fois qu'il lance une encyclique, puisque c'est un document d'enseignement, en général sur la foi et sur les mœurs, qui n'est pas destiné aux seuls fidèles du diocèse de Rome, mais qui se diffuse sur la terre entière, il est précisément en train de parler ex cathedra sur la foi et les mœurs, et donc il est infaillible. Mais en fait, aujourd'hui, je crois que personne dans le catholicisme applique ainsi, croit qu'il faille appliquer ainsi, la clause de Vatican I. Personne ne pense que toutes les encycliques sont couvertes par la clause de Vatican I. Alors que quelqu'un de naïf, un brave protestant comme nous sommes, venant là, imaginerait que toutes les encycliques sont couvertes. Tous les discours qu'il fait quand il reçoit des délégations du monde entier, il parle quand même bien de sa chair. Bon.
Est-ce une habileté ?
Alors, je ne sais pas. Alors, quand parle-t-il ex cathedra ? On ne le sait pas. Du fait que ce n'est pas l'interprétation la plus extensive qui pourrait alors le faire dire infaillible dans presque tous ses discours, puisqu'on exclut cela, vraiment personne n'y revient, on ne sait pas quand il parle de façon infaillible. Il semble que maintenant la plupart des clercs s'en tiennent au minimum. Le minimum, c'est quand il promulgue un dogme, quand il déclare qu'il y a un nouveau dogme, disons plutôt un dogme qui va être de façon nouvelle reconnu comme tel, vérité de foi imposée à tous les catholiques. Ça, alors, ça paraît le minimum. C'est la formule la plus solennelle qu'il peut employer. Là, il y va avec tout le poids qu'il peut avoir. Si la formule de Vatican I ex cathedra ne s'appliquait pas à ce moment-là, alors elle ne s'appliquerait vraiment jamais. C'est pour ça que je crois que pratiquement tous les théologiens sont prêts à dire, voilà, au minimum, quand ils promulguent un dogme. Alors ça, il ne l'a fait qu'une fois, depuis 70, c'est en 1950, quand il a promulgué le dogme de l'Assomption. Il n'a fait qu'une fois. Alors, en théorie, des positions intermédiaires seraient concevables, mais où trouver le critère ? Et on ne peut pas dire c'est le pape qui va lui-même décider de ce qui est infaillible ou non, et le mettre dans un préambule, par exemple, parce qu'on pourrait tout de suite se demander si c'est ce jugement même du pape quant à l'infaillibilité est infaillible. Vous reculeriez indéfiniment la question. Si le pape disait, voilà, cette encyclique que j'ai écrite, elle est infaillible. Vous pourriez dire, oui, mais vous prétendez ça, mais êtes-vous infaillible en prétendant ça? Est-ce que c'est couvert par Vatican I? C'est pas sûr. Vous ne promulguez pas sur la foi et sur les morts en disant que cette encyclique est infaillible. Vous voyez, on pourrait reculer indéfiniment. Il n'y a en quelque sorte aucune garantie, mais l'opinion courante, c'est que le pape entre dans la situation prévue par Vatican I, de manière en tout cas bien, bien certaine, à accepter par tous les catholiques, que lorsqu'il promulgue un dogme.
C'est
concevable. Oui, oui, oui. Alors, j'aimerais vous lire tout à l'heure, je ne sais pas si j'aurai tellement le temps, mais la liste des catégories successives dans la théologie catholique actuelle, tout le dégradé depuis justement ce qui est deux fois défini et qu'il est hérétique de renier, et puis ce qui en est proche, ce qui en est moins proche ou plus lointain, etc. C'est je trouve très très intéressant. Ce sont les notes, bon, mais puisque je vais peut-être essayer de le retrouver maintenant, c'est dans le livre du père Congar sur le mystère de la foi. C'est dans la collection, donc le mystère chrétien, mais c'est la foi et la théologie qui est le titre de cet ouvrage tout à fait remarquable. Hein.
Quel est le propos de la
C'est un volume d'introduction à la théologie qui traite de toutes ces questions d'autorité. Si vous voulez, c'est le volume de Prolégomène de Congar, mais plus long que mon petit fascicule, bien sûr, beaucoup plus fourni, et avec vraiment une présentation très très claire et je pense non extrême. Là, c'est en page 50, j'ai une citation, mais je crois que c'est pas ce tableau des notes successives qui est très, très intéressant. Et vous avez des distinctions très, très précises qui sont faites. Quelle est l'extension objective de la compétence du magistère, dit-il ici. Elle est mesurée par le révélé et fondée dans la mission qu'a le magistère de le garder et déclarer infailliblement. Elle s'étend donc à tout ce que comporte nécessairement la vérité du rapport religieux des hommes avec Dieu en Jésus-Christ. C'est ce qui concerne la foi et les mœurs. On discerne dans son extension, premièrement, le formellement et le virtuellement révélé. Sont formellement révélées les vérités qui s'imposent à l'esprit du croyant immédiatement, de par les termes mêmes des témoignages inspirés. Sont virtuellement ou médiatement révélées les vérités réellement contenues dans la révélation, mais qui doivent y être perçues par un effort de l'esprit raisonnant ou rapprochant des données, mais sans ajouter objectivement quoi que ce soit aux données révélées lui-même. Deuxièmement, le révélé et le connexe au révélé. On entend par là des vérités qui, sans être révélées, ont avec les vérités révélées un lien tel que leur profession par les fidèles et éventuellement leur définition par le magistère ou la condamnation des erreurs qui les contredisent est nécessaire à la conservation intégrale du dépôt de la foi. Le magistère revendique sa compétence et même éventuellement l'infaillibilité dans ce domaine. La théologie moderne appelle ces vérités éventuellement définies bien que non révélées vérités catholiques. Elles comprennent un secteur spéculatif, censure engageant éventuellement l'infaillibilité des thèses, de thèses philosophiques ou de droit naturel ou théologique en deçà de la note d'hérésie, fait dogmatique. Un secteur pratique, canonisation des saints, où il n'est pas sûr que l'Église en cache son infaillibilité, approbation solennelle des règles religieuses. Et il y a des débats, vous voyez, il parle ici de l'encyclique de diverses encycliques, du syllabus de Pie IX, de la session 3 du premier concile du Vatican, une exégèse attentive des textes montre que cette compétence du magistère à l'égard de son objet secondaire n'est pas de foi, mais elle est proche de la foi seulement. Pour certains auteurs, les faits dogmatiques font l'objet d'un assentiment de foi ecclésiastique, même engager l'infaillibilité de l'Église. Vous avez une distinction entre la foi chrétienne elle-même et puis la foi ecclésiastique.
Est-ce que les braves catholiques qui vont à la messe tous les dimanches sont au courant de ces
certains s'informent, ça dépend. Hein. Vous avez des gens comme Claudel, ce que je crois aller le demander à Rome, ou enfin, je ne sais pas si c'est Claudel ou ça s'est attribué à un certain nombre d'auteurs, mais vous en avez d'autres qui s'informent pas mal. Il y a quand même des intellectuels catholiques qui, sans être des clercs eux-mêmes, se sont informés en assez grand détail. Alors là, je voudrais vraiment retrouver cette question des notes de certitude différentes. Peut-être que je vais retrouver cela dans l'index. Non. Thank you. les notes. Voilà, les, c'est ça, j'ai retrouvé, page 166 et suivante. Et vous avez d'abord, donc, ce qui est de foi. Et à quoi s'oppose, donc, l'hérétique. Comprend le contenu de la parole de Dieu transmise par écrit ou par tradition apostolique, c'est ce qui est de foi divine. B. Ce même contenu proposé par l'Église comme divinement révélé, soit dans une déclaration solennelle, dogme au sens strict, exemple Assomption, soit par son magistère ordinaire et universel, dogme au sens large, de fide divina et catholica, de foi divine et catholique. Et C. Les vérités catholiques proposées par le magistère engageant son infaillibilité, certains en font l'objet d'une foi ecclésiastique. Alors ensuite, vous avez ce qui est proche de la foi et qui est théologiquement certain. Et puis, après cela, vous aurez ce qui est opinion pie, opinion pieuse, et approuvée comme telle. Et alors, à l'opposé, vous avez tout le dégradé, c'est un dégradé beaucoup plus détaillé encore, parmi ceux qui s'opposent. Donc après ce qui est hérétique, vous avez ce qui est erroné. C'est pas hérétique quand même, mais s'oppose à une vérité tenue par l'ensemble des théologiens pour connexe ou révélée. Ça c'est une thèse erronée. Ensuite vous avez, moins fort, proche de l'hérésie, s'oppose à une doctrine considérée presque unanimement comme appartenant à la révélation. Puis ensuite, proche de l'erreur, idem comme connexe au révélé. Puis, ensuite, ce qui littéralement se traduirait sage d'hérésie, c'est sapiens et hérésime, accusatif. Mais voilà ce comment explique Congar, n'exprime pas formellement une hérésie, mais peut recouvrir un sens hérétique. On peut peut-être dire, en traduisant pas littéralement, qui sent l'hérésie, voyez, pas forcément hérétique, mais qui sent l'hérésie, n'exprime pas formellement une hérésie, mais peut recouvrir un sens hérétique. Puis ensuite, qui sent l'erreur, ou suspect d'erreur, idem. Puis ensuite, téméraire, qui contredit une opinion commune sans raison suffisante. Puis ensuite, qui offense les oreilles pieuses, malsonnant, dangereux, exprime une tendance blâmable, dangereuse. Il a rattaché l'avertissement réprobateur, ne peut pas être enseigné. Comme disent souvent les condamnations des papes. Voilà en gros la plupart des notes. Vous voyez, vous avez tous se dégradé, toc, comme ça. Alors, en ce qui concerne, bon, finalement, nous n'allons pas sortir du XVIe siècle quant à mon exposé, mais aujourd'hui. En ce qui concerne le Concile de Trente et la théorie des deux sources, le point qui a été particulièrement mis en relief en notre siècle, c'est que le schéma initial n'a pas été retenu. Le texte qui avait d'abord été proposé au Père Conciliaire disait que la révélation est contenue en partie dans l'Écriture et en partie dans la tradition. Mais alors il y a eu de vives protestations de certains des Pères Conciliaires, et en particulier d'un certain Bonucci, qui a une sensibilité, disons, plus proche du protestantisme, sans doute à cet égard. Il trouvait en tout cas que c'était énorme. Et ce Bonucci a obtenu que le « en partie » soit effacé. De telle sorte que la rédaction finale a été simplement « Cette vérité et cette discipline sont contenues dans les livres écrits et dans les traditions non écrites. » Ce qui laisse la possibilité de comprendre que tout est déjà dans la Bible, mais d'une manière plus ou moins claire seulement, plus ou moins suggérée, de telle sorte que les traditions sont nécessaires pour mieux faire apparaître ce qui est déjà compris dans l'Écriture. En même temps, l'interprétation en partie n'est pas exclue non plus. Mais le Concile de Trente a adopté, par cette formule, vous voyez, la voie moyenne, à propos de la théorie des deux sources. Et c'est l'autorité, la conservation par l'Église, de toute façon, des traditions, qui est le critère pour ces traditions. Là, je voudrais lire, parce que ça me paraît un texte très intéressant, ce qu'a publié M. Nicole dans son Histoire de l'Église, la déclaration que le Concile de Trente a imposée à tous les clercs. C'est la profession de foi du Concile de Trente. Je reconnais fermement et j'embrasse les traditions apostoliques et les autres coutumes et règlements de l'Église. De même, je reconnais l'Écriture sainte dans le sens où notre Sainte Mère l'Église l'a tenue et la tient encore. À elle, l'Église, appartient le jugement sur le véritable sens et l'explication des Saintes Écritures. Jamais je ne l'interpréterai et ne l'expliquerai autrement que d'après l'interprétation unanime des Pères. Et puis, ensuite, je reconnais la Sainte Église romaine, catholique et apostolique, comme la mère et l'éducatrice de toutes les églises. Je promets et jure vraie obéissance au pape romain, successeur de Saint-Pierre, le prince des apôtres et vicaire de Jésus-Christ. J'accepte aussi sans élever aucun doute, et je confesse toutes les autres choses qui ont été transmises, décidées et déclarées par les cinq conciles écuméniques, avant tout par le Saint Concile de Trente. Voilà la profession de foi que ceux qui recevaient ce concile devaient aussi adopter, à laquelle ils devaient souscrire. Alors ça a été le premier combat. Deuxième grand combat, juste mentionné, ça a été le combat contre l'illuminisme. C'était le deuxième front, avec un heurt très, très significatif en 1522, alors que Luther était à la Wartburg, dans le château où il était protégé par le prince qui avait voulu le soustraire à ses ennemis et où il traduisait la Bible. Alors que Luther était à la Wartburg, des prophètes, qui prétendaient prophètes célestes, avec Thomas Müntzer, tout un groupe qui venait de Zwickau, Z-W-I-C-K-A-U, sont arrivés à Wittenberg, la ville de l'université de Luther, et ont fait semer beaucoup de troubles, ont entraîné un certain Karlstadt, dont je vous ai déjà dit un mot, je crois, et vraiment, ces hommes, par leur dépréciation de l'Écriture, supplantés pour eux par la parole vivante du Saint-Esprit dans le cœur, les révélations qu'ils recevaient, ces hommes ont créé beaucoup de troubles. Alors, il a fallu que Luther revienne. Je pense que c'est bien plus fort, bien plus loin que tout ce qu'on voit dans le mouvement charismatique, disons, principal de notre temps, ou dans le pentecôtisme. Mais il y a une certaine similitude dans, disons, l'atmosphère de fièvre spirituelle. Mais, à ma connaissance, tous les charismatiques que j'ai pu rencontrer, les leaders charismatiques ont grand souci de maintenir l'autorité de l'Écriture, alors que ces hommes, ouvertement, la dépréciaient. Alors Luther est revenu par sa prédication qui était tellement puissante, il a rétabli l'ordre, et il a écrit par la suite un petit livre très très dur contre l'illuminisme, qui dès ce moment-là est devenu pour lui un des pires d'emblée, un livre contre les prophètes célestes, comme il a été appelé, et on retrouve la vigilance contre l'illuminisme chez les autres réformateurs, et en particulier chez Calvin. Les chapitres dans le premier livre de l'Institution chrétienne sur l'illuminisme sont parmi les plus intéressants, je dirais, de l'ensemble de cet ouvrage, très très précis. On voit bien que Calvin avait pris l'habitude de discuter, et il savait quels arguments il fallait opposer aux tendances illuministes. Et un point qui a été mis en avant à la fois par Luther et par Calvin aussi, mais déjà par Luther, c'est la similitude entre Rome et l'illuminisme. En fait, ils ont dit, en fait, c'est la même chose. D'un côté, on a un illuminisme institutionnel, c'est le pape qui est l'illuminé. De l'autre, on a un illuminisme en quelque sorte anarchique, ce sont des individus qui se lèvent, ça et là, mais en fait, c'est le même reniement de l'autorité de la parole de Dieu. La même stratégie de la chair qui prend barre sur ce que Dieu a dit. Et je pense que cette analogie est très intéressante. Et puis le troisième front était un front qui annonce les grands débats du XVIIIe siècle à nos jours, mais c'est intéressant de savoir que déjà au XVIe siècle, il y a eu un combat. La mentalité critique s'est éveillée avec l'humanisme. Il y a eu, dans cette fermentation de l'époque, des hommes qui ont remis en cause l'autorité biblique, non pas au nom de prétendue révélation, mais au nom de la raison. Et il y a eu tout un courant, on a pu appeler par la suite libertin, contre lequel Calvin en particulier a lutté très, très vigoureusement. D'ailleurs, c'est sans doute un peu pour ça que Rabelais, au début, était assez favorable à la réforme, et ensuite s'est montré très, très hostile. Rabelais, de manière habile et couverte, mais sans doute aller dans le sens de cet esprit libertin, de cet esprit hostile aux vieux dogmes chrétiens, et aussi bien sous la forme biblique que sous la forme du catholicisme médiéval. Il s'agissait d'émanciper l'homme avec ses pouvoirs propres. Alors, le combat s'est développé, et même nous pouvons penser que Calvin a été exagérément véhément contre des formes très modérées, mais non, il a senti que c'était un autre esprit. Avec Sébastien Castellion, je crois qu'on peut dire qu'on voit à quel point Calvin redoutait comme une peste spirituellement le point de vue critique sur l'Écriture sainte. Castellion n'allait pas très loin, mais voilà, il avait mis quelques doutes sur le Cantique des Cantiques, c'était pas très clair. Au nom de l'humanisme, de la raison exégétique. Et Calvin a réagi très fort. Voilà, donc, en ce qui concerne le XVIe siècle, alors, je vais quand même la fois prochaine, mais j'ai parlé d'avril tout à l'heure, en fait, c'est mars la fois prochaine, hein, je pense quand même que nous aurons une séance en mars. Et je pense que la fois prochaine, nous pourrons faire le survol jusqu'à nos jours, et puis nous entretenir alors, comme nous avons en fait déjà commencé un peu de le faire aujourd'hui.